C'est pour nous. Ça veut pas dire que, mesdames, ça vous concerne pas, puis c'est, et j'espère que ça va être intéressant pour vous aussi. Mais pour nous, messieurs, j'aimerais ça qu'on regarde les Écritures en fonction de notre rôle. Je vous ai lancé la phrase « Yes, we can », hein? Un chef tellement populaire qui s'est levé dans notre temps avec Barack Obama. C'est quoi un chef? C'est quoi un chef que les gens ont envie de suivre? Que les gens ont confiance, que les gens ont envie de respecter. C'est intéressant avec le phénomène qui s'est passé, de voir comment est-ce que les gens se sont mobilisés pour suivre cet homme-là. Alors, on pourrait regarder, la vie politique est un bon domaine pour regarder c'est quoi un chef, un bon chef, un moins bon chef. On a vu dans nos propres partis politiques au Canada, dans le temps des fêtes, vous vous souvenez de ce qui se passait avec coalition, puis bon, je veux pas soulever puis donner des opinions là-dedans, mais il y avait question encore de chef. Est-ce qu'on suit un chef? Est-ce qu'on suit un autre chef? Est-ce qu'on veut la tête de notre chef? Bref, c'est un chef, c'est extrêmement important à savoir si on a envie de le suivre ou si on veut sa tête. Hein, si vous suivez une équipe de hockey et puis ça fait quelques années que l'équipe fait pas les séries, qu'est-ce qui se passe? Ben le coach, hein, on l'échange, on va en prendre un autre et puis on va se trouver un nouveau chef qui va être capable de mobiliser peut-être mieux les troupes. On voit dans notre monde, dans notre société, des chefs que les gens ont envie de suivre puis que les gens ont peut-être moins envie de suivre. Je veux juste vous citer un exemple dans les Écritures parce que pour nous, en tant qu'hommes, ça nous concerne aussi. Parce que Dieu nous a donné un rôle. Je donne un exemple. 1 Corinthiens 11, 3 et 4, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Et là, au verset 7, ça dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Je ne veux pas enseigner nécessairement ce texte-là, mais à part que ce que je veux faire ressortir, c'est que ce que Dieu nous révèle, c'est que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et à l'intérieur de ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'égalité. Il y a une égalité. Entre Christ et Dieu, ils sont égaux. Entre l'homme et la femme, ils sont égaux. Mais Dieu a placé des rôles, par exemple, qui sont bien établis. C'est ce qui fait que Dieu nous révèle que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Un homme n'est pas forcément, dans notre société, ce qu'on peut entendre souvent, James Bond ou Tarzan. Ni un de ces héros-là qui pleure jamais ou puis qui est toujours très musclé. Un homme, c'est en lisant la Bible qu'on découvre que Dieu aime voir dans l'homme son image et à travers les rôles qu'il nous a donnés. L'homme tel que Dieu le veut est équilibré. Puis Dieu a confié à l'homme un rôle spécifique. Le texte que j'ai lu dit « L'homme est le chef de la femme ». Je ne pense pas que, et je suis convaincu, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont le chef de toute femme. Hein? J'ai une relation avec ma femme. Et dans cette relation-là, Dieu a établi un rôle entre moi et ma femme. Dans l'Église, Dieu a établi des rôles. Par exemple, les anciens ont un rôle qui est donné aux hommes, un rôle de direction. Et il doit y avoir une relation à travers ça. Dans notre société, il y a des autorités qui peuvent être exercées par des femmes, puis qu'on doit respecter les autorités aussi. Mais dans ce que Dieu a donné comme rôle, on doit honorer ces choses-là. Alors, quelle que soit ta vie, quelle que soit, messieurs, ta vie, que tu sois un célibataire, que tu sois marié, que tu sois papa, que tu n'aies pas d'enfant, que tu sois grand-papa, que tu sois retraité, les Écritures nous concernent, Dieu nous parle, puis Dieu nous donne un rôle de chef. Et ce matin, ce qu'on va voir avec l'exemple de Néhémie, c'est non seulement Dieu nous révèle qu'on a un rôle qui nous est donné, mais il nous dit aussi comment le faire. Il nous donne des moyens de bien faire ce rôle-là qu'il nous confie aussi. Alors, si Dieu a donné un rôle de chef, de leader, pourquoi ne pas bien le faire? Je citais tantôt Barack Obama. Je ne pense pas que parce que Dieu nous a donné un rôle de chef, qu'on se doit tous d'être des hommes publics, des hommes qui ont des grands discours, qui ont beaucoup de charisme, mais en même temps être des chefs sur qui Dieu nous a placés au milieu, d'être des chefs qui font bien leur rôle, qui le font de façon encourageante, entraînante, où on va susciter la confiance des gens que Dieu nous a confiés. J'ai oublié, je voulais apporter, c'est drôle parce que pendant que je préparais mon étude, il y a une petite publicité qui est tombée dans un de mes livres et puis je voulais l'apporter. Puis la publicité qui était là, c'était différents livres, 475 titres pour découvrir le succès, hein, la réussite. Alors, découvrir, et là, c'est vraiment pas biblique, là, mais découvrir les 10 lois spirituelles pour avoir le succès. C'est très, très populaire dans notre monde, hein. Aujourd'hui, on voudrait que on soit tous des hommes qui réussissent, qu'on est prospère, et puis, ce faux modèle-là que je citais tantôt de James Bond puis de Tarzan, ben, c'est pas aussi grossier que ça, mais c'est à ça que notre société veut nous dire que les hommes, on doit être comme ça. Les femmes, vous devez être comme ça. Mais regardons qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Je vous invite à tourner dans Néhémie 3. 1 Corinthiens 16, juste avant qu'on lise Néhémie 3. Puis là, ce matin, j'ai sollicité l'aide de deux frères. Tu peux t'avancer aussi, Gabriel. Vous allez comprendre pourquoi. Juste avant, je vais juste vous citer une phrase d'un verset d'1 Corinthiens 16, 13. « Soyez des hommes, fortifiez-vous. » Soyez des hommes, fortifiez-vous. C'est ce que les Écritures nous disent. Comment être un homme dans sa relation conjugale? Comment être un homme avec ses enfants? Comment être un homme au travail? Comment être un homme dans l'Église? Comment être un homme dans ses études, si on est aux études? Il est intéressant de lire les différentes recettes, comme je disais tantôt, que le monde nous suggère. Et ce matin, ce qu'on va regarder, c'est les Écritures. Bon, dans Néhémie 3, j'ai sollicité l'aide de deux personnes parce que on pourrait arriver devant un problème, hein? Quand on lit les Écritures, des fois, on arrive devant un chapitre qu'il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de redondances. Puis là, on arrive au chapitre 3, puis on dit « Ah, je vais aller m'aller au chapitre 4 tout de suite, puis je vais aller lire qu'est-ce que ça dit à la place, à cet endroit-là. » Et puis, je pense que ça serait une erreur de notre part que de passer par-dessus le chapitre 3, parce qu'il y a beaucoup de noms, puis parce qu'il y a beaucoup de redondances. Parce que je crois que dans Néhémie 3, c'est un chapitre clé dans ce que Dieu va nous donner pour nous révéler justement le succès de Néhémie en tant que chef. Néhémie est un chef, si vous vous souvenez du contexte, il est arrivé à Jérusalem, 3 jours il a été là, il a fait le tour pendant la nuit en secret, le tour de la muraille. Le lendemain matin, il a soulevé le peuple, il a dit « Regardez, constatez où est-ce qu'on en est, chapitre 2, vous vous souvenez de ça? » Et puis là maintenant, relevez vos manches, on va se mobiliser, puis on va reconstruire la muraille. Et puis le chapitre 3, c'est ces éléments-là qui sont cités dans Néhémie 3. Dans les noms, dans les répétitions, dans ce que Dieu va nous donner dans le chapitre 3, on va voir ces principes-là que Néhémie a mis en pratique puis qu'il y a réussi en qualité de chef. Dieu nous donne non seulement le rôle, nous donne aussi la compréhension, le moyen que l'on doit saisir pour être un bon chef, pour être un chef encourageant. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? OK, on va commencer avec... Vous pouvez vous approcher au micro ici. Je vous invite à lire en même temps qu'eux. Et puis bon, je leur ai demandé de l'aide pour deux raisons, parce que c'est beaucoup de noms, hein, fait que c'est plus facile si c'est eux qui le font que moi. Et puis, ça va donner du relief aussi, hein. Ce qu'on va faire, on va lire le chapitre 3 d'une claque, ça marche? Puis après ça, on va revenir sur des éléments à l'intérieur du chapitre 3 pour faire ressortir des vérités que Dieu nous a données. Alors, je vous demande d'être attentif et puis de pas changer de poste. Ça marche? À vous la parole.
Néhémie 3. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananaël. À côté d'Éliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézaël, Zabéel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Paseach, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélassia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils d'Aradja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Harumaph, et à côté de lui travailla Hattush, fils de Hashabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Hashub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalum, fils d'Aloshet, chef de la moitié du district de Jérusalem. Anna et les habitants de Zanoac réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth-Hakkerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalum, fils de Kolhosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Beth-Tsur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison d'un héros.
Après lui travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Hashabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères Bavaï, fils de Hénadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille, vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Hashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaseja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Hénadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria, jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui faisait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui, travailla Pédaja, fils de Paréoche. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux, à l'orient, et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion, vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanoun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mipkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis.
OK. Merci beaucoup, messieurs. Ça vaut quasiment une main d'applaudissement, autant de noms. On vient de lire un chapitre au complet et vous comprenez pourquoi je disais qu'on peut arriver devant un problème où on aurait envie de lire un peu en diagonale. Mais qu'on se garde de faire ça. Il y a des redondances qui sont intentionnelles à l'intérieur du chapitre 3 qu'on devrait prendre et qu'on devrait comprendre comme étant un message que Dieu veut nous communiquer. Le premier point que je vais faire ressortir à travers ce chapitre-là, qui devrait être encourageant pour nous, comme je citais tantôt dans 1 Corinthiens 16, « Soyez des hommes, fortifiez-vous ». Et le premier principe du succès de Néhémie comme chef se voit dans la coordination réalisée. Un bon chef sait coordonner, il sait diriger. Néhémie, on voit à travers la redondance, par exemple, « à côté de », « vis-à-vis de », « après lui ». Plus de 28 fois qu'on voit dans ce chapitre-là, cette répétition qui est donnée de une coordination que Néhémie a placée des gens section après section. Alors regardez le verset 1, par exemple. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte de quoi? La porte des brebis. Alors, lisons le dernier verset. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et... la porte des brebis. On vient de faire le tour de la muraille. On a fait le tour de la muraille de Jérusalem au complet. Néhémie a pris le temps. On imagine qu'il a dû bien penser que la muraille doit être faite tout le tour de Jérusalem. On fait pas une demi-muraille à moitié de la ville, on fait juste l'est. Mais il a coordonné, il a dirigé les gens, bloc, section après section. Si on prenait le temps d'analyser le chapitre 3, on voit que Néhémie a divisé la section en 40, a divisé la muraille en 40 sections. Et chaque personne, il y avait des gens qui étaient impliqués dans chacune des sections. Néhémie, on croit qu'en tant que chef, Néhémie a été un dirigeant qui était attentif aux gens, qui était attentif à l'intérêt des gens, attentif aux besoins des gens. Je vous donne quelques exemples. Regardez le verset 10. Ce qu'on est en train de regarder, c'est l'exemple de Néhémie, puis après ça, on va voir comment ça, comment cet exemple-là s'applique à nos vies. Verset 10, « À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Haruma, et après... et à côté de lui travailla Hachum, fils de Hachabnia. » Regardez verset 23. On va regarder juste quelques exemples. Après eux, Benjamin et Hachub travaillèrent vis-à-vis quoi? Vis-à-vis de leur maison. Regardez le verset 28. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun de quoi? Devant sa maison. Néhémie a été un bon chef, étant sensible aux gens où est-ce qu'ils habitaient. Et puis, il a été sensible de bien les diriger. Si Néhémie avait dit, « OK, tel district, district numéro 7, vous allez vous occuper de la section numéro 38 de la muraille, et d'une façon très insensible et administrative, il aurait pu tout diviser ça comme ça, sans se soucier des déplacements. » Et tout à coup, le district 7 s'en va à la section numéro 38, puis finalement, les gens de l'Est se retrouvent à aller dans l'Ouest pour travailler sur la muraille. Et là, ce qu'ils prennent, ils prennent une journée quasiment de marche pour traverser la ville, j'exagère un peu, puis pour aller faire la muraille. Puis Néhémie voyait que ça n'a pas de bon sens. On ne se doit que d'écouter les gens. « OK, toi, tu es devant la muraille à telle section, tu vas travailler devant ta maison. » En plus, c'est pratique. Hein? Imaginez pour le dîner, « Hé, chérie, viens manger. » Parfait, on retourne manger. Hein? Il prend son repas, il est en forme, il prend 5 minutes pour retourner au travail, et puis voilà, ça marche. C'est efficace. Bien dirigé, bien coordonné. Il a enrôlé les gens en fonction de leurs intérêts. Imaginez, Jérusalem est dans une condition présentement désastreuse. Il y a beaucoup il y a un contexte un peu fragile et puis il peut y avoir de la guerre. Imaginez le père de famille qui traverse la ville avec son lunch pour aller passer la journée là-bas, puis tout à coup, la section où sa maison est attaquée. Mais l'homme, il travaille constamment dans le trouble de dire, j'espère qu'il n'y aura rien, là, qu'il ne va rien arriver. Mais l'homme qui travaille d'une façon efficace, qui a été bien coordonné et devant sa maison, peut travailler en paix, peut revenir pour le repas, prend pas trop de temps. Puis en plus, il a l'âme en paix parce qu'il sait qu'il est près de sa famille pour les protéger. En plus, on voit même un homme qui a, « Hey les filles, venez-vous-en. Vous êtes capables de lever des roches? Venez-vous-en, on va aller travailler ensemble. » Néhémie a été, en qualité de chef, un homme qui a su coordonner, réaliser un projet tout à fait immense que de faire rebâtir une muraille qui fait le tour de Jérusalem. Néhémie a été un chef qui a bien coordonné, qui a bien dirigé. Mais vous savez, dans notre société, un problème existe. Et dans notre société, et de tous les temps, malheureusement, depuis Adam et Ève, il y a dirigé et dominé. Et il y a une nuance importante entre les deux. Un chef pourrait avoir cette tendance que de dominer plutôt que de diriger. Un chef, s'il veut diriger, s'il veut coordonner, il se doit que d'ouvrir ses oreilles. Et c'est ça qu'on voit à travers Néhémie qui a enrôlé les gens en face de leur maison. Comment est-ce que ça s'applique à nos vies? Je vais juste citer Cyril J. Barber qui dit dans son livre « L'art de diriger ». Il ne peut y avoir de progression durable sans une bonne coordination. Ce principe est valable dans le monde des affaires, dans l'industrie, ainsi qu'à l'église ou à l'école, à la maison ou à l'hôpital. Dans toutes les sphères, ce qu'il dit, ce monsieur Barber-là, c'est qu'il ne peut y avoir de progression durable sans une bonne coordination. En tant que chef, là où ce que Dieu nous a placés, on se doit que de diriger d'une façon intelligente, d'une façon sensible, d'une façon où ce qu'on ouvre nos oreilles et puis qu'on est sensible à eux. Vous savez, des fois, ma relation avec ma femme peut se voir un peu comme mon vieux radio quand je l'écoute. Je ne sais pas si vous avez un vieux radio comme ça à roulette, que vous voulez écouter un poste, et puis là, vous le partez, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas sur quel poste ça va sortir. OK. Puis là, ma femme me parle, je ne mettrai pas trop le son, puis là, tout à coup, elle me parle, c'est clair. Puis là, pendant qu'elle me parle, peut-être pendant un peu, comme on disait tantôt, Gaétan, on a un culte, des fois on lit, puis là, oups, maintenant on est ailleurs. Hein? Alors, les gens qui me parlent, les gens avec qui Dieu m'a placé près, puis que je me devrais que d'être sensible, puis d'ouvrir mes oreilles, puis c'est quoi ton besoin, c'est quoi ton intérêt, c'est quoi ton cœur, puis porter mon attention, bien tout à coup, il y a un petit peu d'interférence, puis là, je pogne comme deux postes. Là. J'entends encore ma femme, puis il y a comme une petite musique de fond, tu sais, puis... À un moment donné, je suis complètement changé de poste, puis je suis ailleurs. Et puis, on est souvent distrait. Il y a un article qui a été écrit... Dans le journal Leadership, volume 1, numéro 4, page 99, si ça vous intéresse. Comment être un bon auditeur? C'est intéressant qu'il y ait été un article qui a été écrit pour les leaders de notre temps pour poser la question, cette question, est-ce que vous êtes un bon auditeur? Je ne vous lirai pas les questions. Si ça vous intéresse, je vous les donne. Vous venez me demander. Mais c'est un peu ce principe-là que quand quelqu'un vient me parler, mon enfant vient me parler, ma femme vient me parler, mes employés ou les gens avec qui je sers dans l'église viennent me parler puis me donner quelque chose, est-ce que je suis attentif à leurs besoins? Est-ce que je suis attentif pour bien diriger? Pour bien coordonner. Imaginez un. Avant que je dise ça. Dans coordonner, il y a un mot intéressant. Ordonner. Qui aurait envie de suivre un chef désordonné? Et là, j'aimerais vous dire que pour moi, le terme de ordonner devrait dépasser la méthodologie de travail. Okay? Ce n'est pas nécessairement comment est-ce que vous classez vos papiers, mais comment est-ce que votre vie est classée? Comment est-ce que vous avez vos priorités dans vos vies? Comment est-ce que vos responsabilités, vous y faites face? Avoir une vie ordonnée, si on a envie de suivre un chef, c'est parce qu'il dirige bien, c'est parce que lui-même il est ordonné, c'est parce que lui-même a des bonnes priorités, puis c'est ça qui est inspirant à suivre un chef, qu'on a envie d'être près de lui. Si mes enfants viennent me parler, je devrais être attentif, ma femme la même chose, et devrait être ordonné aussi. Je pourrais vous citer Éphésiens 6. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en l'instruisant selon le Seigneur. Mes enfants, je dois les élever, je dois les encourager. Ça, c'est un exemple pour en tant qu'homme, en tant que père. On devrait être attentif. Et même Colossiens va dire, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se quoi? Qu'ils ne se découragent. Néhémie, là, quand il construit la muraille, le monde sont-ils encouragés ou découragés? Les gens, ils ont les manches relevées, puis ont les truelles, et puis ils sont prêts à partir devant leur maison, puis se mettre à l'œuvre. Un chef qui est motivant, qui est encourageant, va diriger de façon à ce que les gens avec lui vont être motivés, vont être encouragés, et non pas découragés. Je vous donne un autre exemple pour l'Église. Tournez avec moi dans 1 Timothée 3. Gardez un doigt dans Néhémie 3, on va y revenir tantôt. Néhémie, le premier principe qu'on est en train de voir, c'est qu'il était un chef qui faisait de la coordination pour avoir un rendement efficace, si je peux dire ça comme ça. Mais pour bien diriger, pour bien coordonner, il faut avoir une grande paire d'oreilles aussi, puis être sensible aux gens, pour bien diriger. Et dans l'Église, Dieu nous donne des dons, il nous donne des évêques, des anciens, et là, c'est un exemple, OK? Et on dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, j'aimerais vous porter votre réflexion plus loin, que dans le fond, c'est l'attente de Dieu envers tous les hommes, OK? Et c'est parmi ces hommes-là qu'on va choisir un évêque. Regardez 1 Timothée 3, versets 2 à 5. « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il quoi? Qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? » Cette idée de direction que Dieu laisse au rôle de l'homme de diriger, ça doit être fait d'une façon sensible, d'une façon qui réussit. Et c'est ce qu'on a vu à travers l'exemple de Néhémie. Je vais juste vous donner un autre exemple évident. Imaginez, j'ai eu deux exemples même qui me viennent en tête. Un chef d'orchestre, si vous êtes les musiciens et je suis le chef d'orchestre, vous devez évidemment d'écouter le chef d'orchestre pour voir à quel moment il va y avoir les crescendo, bref, pour suivre le chef d'orchestre. Mais si le chef d'orchestre dit, moi je suis le chef, là, pas besoin d'écouter, là, je fais ce que je veux puis vous vous suivez, mais le chef d'orchestre, je suis convaincu qu'à un moment donné, il va être décalé du reste. Probablement, celui qui est le plus attentif, c'est le chef qui est en avant pour écouter comment ça se fait que les bois ne jouent pas assez fort, comment ça se fait qu'ils ne suivent pas, comment ça se fait que lui, il fait cette façon-là. Alors, le chef se doit que d'être attentif aux gens. C'est ce qu'on voit à travers l'exemple de Néhémie qui a bien dirigé la reconstruction autour de la muraille. Je vous invite à revenir dans Néhémie 3. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Et le deuxième principe du succès de Néhémie comme chef se voit dans la coopération réalisée. La coopération réalisée. Un bon chef, c'est solliciter la coopération, l'unité, l'harmonie. Regardez l'exemple de Néhémie. Il prend des gens, on voit au verset 1, des souverains sacrificateurs. On voit au verset 5, des gens qui viennent d'une autre place, des Técoïtes, on voit des Gabaonites, on voit des gens qui viennent de Jéricho, on voit des orfèvres, on voit des Lévites. Je passe à la fin, on voyait tantôt verset 32, les orfèvres, des marchands, il y avait des pharmaciens, il y a des hommes qui sont des célibataires là-dedans qu'on connaît, qui sont venus. Il y a un groupe disparate, un groupe différent de plein de personnes. Puis Néhémie, en tant que bon chef, a réussi à utiliser la coopération de chacun de ces groupes-là. Alors, même les gens qui n'habitaient pas à l'intérieur de Jérusalem. Regardez le premier verset, on l'a lu tantôt. La première personne à se lever, puis à dire, moi je vais bâtir, c'est qui? Souverain sacrificateur, chef religieux. Un chef est capable de se lever, puis de dire, moi je veux coopérer. Et puis, ce chef religieux-là, il a enlevé son habit de souverain sacrificateur pour la changer pour une salopette. Et puis, il est allé bâtir la porte des brebis. Et puis, il a amené avec lui d'autres gens, puis il a dit, on part, puis on commence comme ça. C'était tout à son honneur. Il aurait pu dire, ce chef religieux-là, nous, on a été consacrés au temple. Donc, on ne veut pas réellement se mêler aux durs travaux. Les artistes là-dedans, il y a des orfèvres, ces gens-là qui avaient un travail habituellement minutieux, ou qui prennent le temps de faire les choses, bien, ils auraient pu dire, bien, nous, on est consacrés à des tâches minimes et puis qu'on doit prendre le temps. Ce n'est pas le temps pour nous d'aller placer des pierres. Mais ces gens-là ont coopéré aussi avec ce que Néhémie voulait. J'aime beaucoup cet exemple-là du chef, des gens. Il y avait deux chefs de district. Regardez le verset... excusez-moi, je vais essayer de le trouver. Verset 9. À côté d'eux, travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. On a un chef de la moitié du district de Jérusalem. Regardez le verset 12. À côté d'eux, travailla avec ses filles Shalum, fils d'Alochet, chef de la moitié du district de Jérusalem. Deux chefs, des moitiés, chacune moitié de Jérusalem, et ils sont là, puis ils travaillent côte à côte, puis ils coopèrent. Nous, on sort de nos bureaux, puis on s'en va placer des pierres, on veut contribuer aussi. Un chef qui a coopéré, Néhémie a su solliciter cette coopération-là aussi. Alors, Néhémie encourageait les gens pas seulement à donner leur temps, mais aussi à faire de leur mieux dans le travail, en sollicitant la coopération des gens. Tous ces gens-là là, travaillaient de leur plein gré. Tous ces gens-là disaient, moi, je vais bâtir la muraille parce que je veux participer, parce que je veux être là. Là, je me retiens, je referme la parenthèse. Il y a une quantité incroyable d'applications d'église qu'on pourrait faire à travers ça. Travailler vis-à-vis, à côté d'eux, ils se relèvent les manches, chacun prenne cette chose-là à cœur, ils travaillent, que ça soit nous-mêmes qu'on puisse faire ces liens-là d'application dans nos vies aussi en tant qu'Église, qu'on devrait prendre ce travail-là à cœur. Faites juste aller dans chapitre 4, verset 6. « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. » Le peuple a pris à cœur ce travail parce que Néhémie a su utiliser tout le monde qui était disponible. Il les a bien écoutés, il les a bien dirigés et maintenant il sait utiliser cette coopération-là entre chacun d'eux. Chef, pourrait se dire littéralement, tête. C'est une tête. Hein, on emploie l'expression couvre-chef, couvre-tête. Mais une tête ne fait pas seulement que diriger, ne fait pas seulement que donner des directions. Mais elle est là aussi pour faire la coopération. On a besoin, si on prend l'image du corps, on a besoin, notre tête a besoin de faire la coopération ou l'harmonie entre les dents et la langue. Hein? S'il n'y a pas d'harmonie entre les dents et la langue, à un moment donné, les dents sont mortes de la langue. On a besoin d'avoir une bonne harmonie entre des fois le nez et les pieds. Des fois, il y a de la discorde entre les deux. On a besoin d'harmoniser ou de unifier les mains avec le milieu du dos. Hein? On a de la misère avec ça des fois. Ça, c'est l'image du corps. Mais la tête, là où est-ce que Dieu nous a placés en tant que chef, on a à veiller à ce qu'il y ait l'harmonie, l'unité, la coopération entre les membres. Si on prend l'image d'une église, Christ est le chef, évidemment. C'est lui qui est la tête. Et on a à coopérer les uns avec les autres. Parce que c'est lui qui nous unit. C'est lui qui veille à l'harmonie. Et on a notre responsabilité aussi face à ça. Si tu es un chef de famille, tu as le devoir de veiller à l'unité de cette cellule-là, la cellule familiale. Si tu es un mari, tu dois veiller aussi à l'unité, à l'harmonie de ton couple. Si tu es engagé dans un ministère, tu dois veiller aussi à l'harmonie, à l'unité au sein de ton ministère. Unifier, harmoniser, ça se fait avec des parties différentes. C'est souvent là que ça achoppe. C'est souvent là le problème. Avez-vous déjà essayé de faire un casse-tête avec des pièces identiques? Toutes les pièces pareilles, hein? Tout le monde est pareil, c'est bien plus facile. Mais essayez ça. Ça ne marchera pas, vous savez très bien. Mais ce qui est bien, comment est-ce que Dieu nous a fait, c'est que oui, on est différent. Et puis là où ça achoppe, c'est parce qu'on regarde à la différence. Mais en tant que bon chef, si Néhémie a réussi, c'est parce qu'il a regardé à la complémentarité. Comment est-ce que les gens qui ont tel métier, parce qu'on voit à travers le texte que Néhémie a utilisé même chaque homme selon leur travail, selon leur métier, dans des endroits propices. Alors, en tant que chef, on a à veiller justement à cette harmonie-là. Que Dieu nous a donné, que Dieu sur lequel veut qu'on veille. Je vais juste terminer avec l'exemple, pour terminer ce point-là de coopération, de regarder à la complémentarité plutôt que la différence. Quand Adam a vu Ève, il était content. Il était content qu'elle soit différente. Peut-être qu'elle n'était pas aussi musclée que lui, aussi carrée, elle était un peu plus courbe. Pour lui, ça faisait l'affaire, il était très content, il était différent. Sa façon de penser à Ève était peut-être différente aussi. Et puis, ils étaient différents, mais savez-vous qu'est-ce que Adam a dit? « Os de mes os, chair de ma chair. » Et puis, il était content que d'avoir une femme qui était différente. Et puis que Dieu a créé une aide semblable à lui. Et c'est la même chose dans ces éléments-là que dans lesquels Dieu nous place, que ce soit une famille, que ce soit l'Église, que ce soit un ministère. Si on est différent, regardons à la complémentarité. En tant que chef, soyons allumés de comment est-ce qu'on peut agencer les morceaux pour que ça puisse se fortifier, que ça puisse être solide. C'est le rôle que Dieu nous laisse en tant que chef. Le premièrement qu'on avait avec Néhémie, c'est-à-dire de bien diriger avec des grandes oreilles, d'être attentif, d'être sensible, de bien coopérer aussi, comme à l'image de ces chefs-là qui se sont relevés les manches. Je n'ai pas donné l'exemple de Jésus. Jésus, je l'avais-tu donné? Non, je ne l'ai pas donné. Hein? OK. Jésus, dans Jean 13, mais qu'est-ce qu'il fait lui aussi, comme à l'image de ces souverains sacrificateurs-là qui enlèvent leurs vêtements? Jésus a enlevé ses vêtements, il a pris une serviette, puis il est allé laver les pieds. Puis Jésus leur a dit, vous m'appelez maître, et vous faites bien parce que je le suis. Mais un bon chef est capable, à un moment donné, de servir les gens que Dieu lui place aux côtés de lui. À l'image de Jésus, à l'image de ces sacrificateurs-là, à l'image des chefs de district qui disent, nous, on sort, puis on est prêt à servir, à collaborer, à coopérer, à unifier, à harmoniser. Puis Néhémie a été un motivateur à travers tout cela. Jésus nous a laissé un bon exemple. OK, on va faire la dernière partie. Soyez des hommes, que je cite de 1 Corinthiens 16, fortifiez-vous. Je ne veux pas débouler trop vite le reste parce que je trouve qu'il est extrêmement important. Extrêmement important. Puis on va y revenir. On va aborder le sujet un peu, puis on va y revenir. Je pose la question, faites-moi un mot incluant courage. Encouragement, encourager. Hein? Ça paraît évident, mais quand on y pense, Néhémie, homme de courage. Si Néhémie était un homme de courage, il a encouragé les gens. Ce troisième principe-là qu'on voit dans le succès de Néhémie comme chef, ça se voit dans les éloges qu'il fait aux ouvriers. Un bon chef, il s'est encouragé. Un bon chef qui est rempli de courage, il s'est communiqué son encouragement, puis il s'est communiqué son courage. Et on a lu le chapitre 3, puis pour nous, on se dit, bon, plein de noms, mais Néhémie prend le temps de les nommer. Néhémie prend le temps de les citer. Néhémie prend le temps de dire ce qu'ils font. Vous avez remarqué plein de mots comme réparer, bâtir. Et réparer une autre section dans le verset, regardez verset à partir du verset 20, je vais le trouver. J'ai dit 27. Ah oui, on peut regarder le verset 27. « Après eux, les Tekoïtes réparèrent une autre section. » Tantôt, là, il y a ce mot-là, « une autre section ». On voit que Néhémie soulève le point qu'il y a des gens qui ont fait une autre section. Il y a des gens qui ont fait jusqu'à 1000 coudées. Il y a des gens qui travaillaient, si vous vous souvenez qu'on l'a lu, qui travaillaient avec ardeur. Il y en a un qui travaillait devant sa chambre. Mais il a travaillé, puis Néhémie l'a nommé. Néhémie n'a pas appelé des gens par leur numéro d'assurance sociale de tel district, puis envoyé à tel numéro de section. Néhémie a dit, toi un tel, lui un tel, il a réparé de telle place jusqu'à telle place. Un autre a fait une autre section en plus. Un autre a fait jusqu'à 1000 coudées. Puis savez-vous quoi? Il a amené ses filles. Il y avait les célibataires qui venaient. Néhémie, il prend le temps de les nommer. Il prend le temps d'être un chef qui est personnel. Je vous cite une citation de John Gray. « Un homme à qui l'on fournit l'occasion de montrer son plein potentiel donnera le meilleur de lui-même. Si en revanche il sent venir l'échec, il régressera à son état antérieur et reprendra ses vieilles habitudes égoïstes. Mais si Néhémie a été un chef qui a su utiliser le plein potentiel de chacun, ces gens-là avaient le courage de se relever les manches. Puis disaient, moi j'y vais. » Puis Néhémie soulevait les éloges en disant « Bravo un tel ». Il a fait une autre section. Il a travaillé de là jusqu'à là. Et puis, ils ont fait telle en telle section. Ça, c'est l'exemple que l'on voit de Néhémie. Un homme présent, un homme sensible, un homme qui le sait ce qu'ils ont fait et qui prend le temps de le dire. Je disais tantôt que c'est un point extrêmement important parce que le courage est rendu malheureusement un fléau qui est le manque de courage, un fléau parmi les hommes dans notre société. Ça se peut que vous êtes assis ce matin dans l'assemblée et vous dites, moi, j'en ai plus de courage. Je suis plus capable. Je suis au bout du rouleau. Dans notre société, j'entendais la semaine dernière un homme qui faisait un reportage qui disait ici à Limoilou qu'il y a un centre pour les hommes suicidaires puis qui disait que par mois, de mémoire, c'était quelque chose comme 125 nouveaux visages qui viennent. Des gens, des hommes qui sont au bout de leurs ressources et qui sont sur le point du suicide parce qu'ils ne sont plus capables. Manque de courage. Et puis, je ne veux pas vous poser un fardeau ce matin en disant, là, c'est assez, relève tes manches. Mais en même temps, si tu n'as plus la force d'être le chef, de transmettre ce courage-là, Christ est ton chef. Dieu est ton chef. Puis tu peux trouver ce courage-là aussi en Dieu. Tu peux trouver ce courage-là aussi communiqué à travers les autres qui sont près de toi. Mais il faut que tu t'accroches à Dieu, qui lui va te transmettre ce courage-là. J'aimerais te déborder d'applications, de textes, et puis le temps manque. Mais je veux juste dire que je ne veux pas poser un fardeau. En même temps, en tant que chef, on a une responsabilité. Et ça se peut qu'à un moment donné, le courage manque. Dieu me dit, je vais juste vous donner quelques citations. Dieu lui-même est un chef encourageant. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, sais que si tu travailles pour moi, ça ne sera jamais en vain. C'est encourageant, ça. Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, je vais être avec toi. Dieu disait, ne t'effraie point, ne t'épouvante pas. Dieu il disait dans l'Apocalypse aux églises, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Dieu le sait les efforts que tu fais. Dieu le sait tout ce que tu fais, puis Dieu t'encourage, puis Dieu veut te communiquer ce courage-là aussi pour être encouragé. À un moment donné, un jour, à un moment donné de nos vies, on a besoin nous-mêmes d'être encouragés. Mais on se doit aussi qu'en tant que chef, qu'à être des chefs qui avons le courage, comme à l'image de Néhémie, un homme de courage, qui communique les encouragements à nos proches, qui relève les bons coups, qui encourage les gens et qui encourage notre femme. Est-ce que votre femme est encouragée par vous? Est-ce que vos enfants sont encouragés par vous? Est-ce que vos frères et vos sœurs sont encouragés par vous? Des fois, nos actions, nos paroles, nos présences, puis même nos silences peuvent être très encourageants pour un proche. Puis on se doit que d'être des chefs, messieurs, qui sommes encourageants, qui veillons à la coopération, qui veillons à la coordination aussi, à la direction. Je termine avec ça. Pour vous donner un exemple de vie moi-même, je me souviens un jour que dans ma vie, en tant qu'adolescent, à l'âge de peut-être 13 ans, j'étais particulièrement découragé de la situation qui se passait dans ma vie. J'aimais pas l'école dans laquelle j'allais. J'étais découragé, j'étais déprimé. Puis mon père l'a entendu. Puis mon père a été sensible à ça. Puis dans une période où c'était pendant le temps des fêtes, puis j'étais très malade, puis je sais pas ce qui se passait dans mon corps, mais mon père est venu me voir puis il m'a dit, « Qu'est-ce que tu penserais si on changeait telle affaire? » Qu'est-ce que tu penserais si on t'inscrivait dans telle activité? Est-ce que ça te motiverait? Dans ma vie, ça a été un des meilleurs coups que mon père a eu auprès de moi. Puis je suis convaincu aujourd'hui que ça a changé le cours de ma vie même aussi. Parce qu'il était sensible, parce qu'il a su me diriger, parce qu'il a su utiliser mes intérêts aussi, puis bien m'encourager. Et puis, c'est ça, me communiquer son encouragement. Pourquoi est-ce qu'on a envie de suivre un chef? Pourquoi est-ce qu'on a envie de suivre? Pourquoi est-ce qu'on est inspiré? Pourquoi est-ce qu'on a la confiance, le respect d'un chef? C'est parce qu'il me dirige bien. C'est parce qu'il m'utilise bien aussi. C'est parce qu'il m'encourage régulièrement. Ça, c'est l'exemple. C'est pas mon vécu. C'est pas parce que je suis meilleur que qui que ce soit. On regarde ensemble les Écritures, Néhémie 3, puis on vient de voir des exemples. Comment ça a réussi à Néhémie? Que cette parole-là soit encourageante pour vous. Du rôle que vous avez et de la mise en pratique de ce rôle-là aussi. J'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, on vient devant toi pour te louer encore pour ta parole. Pour ce texte de Néhémie, quel homme, Dieu, que tu as utilisé et qui a été un chef, Seigneur, formidable. Un chef qui a su diriger avec humilité et puis avec entrain aussi. Dieu, tu nous confies en tant qu'homme, quel que soit notre statut ici sur la terre. Tu veux qu'on soit des hommes qui jouons le rôle comme il faut. Qu'on fasse ce que tu nous demandes, Seigneur, d'une façon droite, d'une façon qui te plaît. D'une façon qui reflète ce que tu désires pour nos vies. Dieu, on réalise que d'abandonner ce rôle-là, c'est de compromettre beaucoup de notre propre vie. C'est de compromettre même beaucoup de la vie de nos proches. Dieu, on te prie que tu puisses nous-mêmes nous encourager, toi-même nous encourager, nous faire du bien. Ce rôle, des fois, peut être lourd pour nous, peut être difficile. Mais comme David le disait, tu es notre autre retraite, tu es notre rocher sur qui on peut s'appuyer. Dieu, on veut trouver en toi notre, notre joie, notre force, puis notre entrain aussi à bien diriger. C'est en nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie ces choses. Amen.